en partie. Mais en grande partie, la réaction des bien-penseurs de notre époque, c'est de dire que cela n'a rien à voir avec le vrai islam. Le vrai islam, on nous le dit, est pacifique, respectueux de la démocratie, et ainsi de suite. C'est une tentative de remettre la religion dans sa boîte privée, anodine. Mais cela ne cadre pas bien avec les documents fondateurs, ni d'islam, ni de la foi chrétienne. L'héritage chrétien, bien entendu, fait une distinction nette entre l'État et l'Église, deux domaines distincts. Et ce n'est jamais le cas qu'au nom de la foi chrétienne, nous pouvons nous servir de l'épée pour faire avancer notre cause. Mais ce n'est pas pour autant que la foi est réservée au domaine purement privé. Rien qu'une opinion anodine. Non, au sein de la foi chrétienne, il y a une lutte épouvantable. La lutte la plus fondamentale qui soit entre le bien et le mal. Je ne sais pas si vous connaissez les grandes histoires de notre siècle passé. Moi, je pense peut-être à Frodon et ses amis dans Le Seigneur des Anneaux, contre Sauron et Saruman, et d'autres. Peut-être vous êtes fan de Harry Potter, vous connaissez Harry et ses amis contre Voldemort. Est-ce qu'il s'appelle Voldemort d'ailleurs en français? J'oublie. On ne sait pas, c'est pas grave. On pense à Jean Valjean, les misérables, contre Javert. On pense même à Superman, contre Lex Luthor. Est-ce qu'il s'appelle Lex Luthor? J'ai oublié de vérifier. La racine de toutes ces histoires, vous savez, c'est l'histoire grandiose, à une échelle beaucoup plus grande que nous donne la Bible, entre Dieu et Satan. Une histoire qui se joue à travers des siècles. Cette lutte qui arrive à son dénouement lorsque Jésus-Christ entre en scène. Jésus, nous l'avons vu dans l'évangile de Matthieu. Il est le roi promis, celui qui a l'autorité qui vient de Dieu. Il est le Fils de l'homme, celui qui révèle Dieu, le Fils de Dieu. Il a cette autorité et son pouvoir parce qu'il vient de Dieu. Il est Dieu, il est maître du sabbat, nous avons entendu. Le serviteur de l'Éternel, le Messie qui devait venir. Il guérit. Il restaure, il purifie, il contrôle la nature, il pardonne les péchés, il donne la vie à ceux qui sont morts. Ce n'est guère étonnant que l'arrivée de Jésus, du bien en scène, suscite une opposition rude et violente de la part du mal. Rappelons-nous juste un chapitre avant, chapitre 11, verset 12. Et nous voyons là, ici je lis de la Bible du Sommet qui traduit un peu différemment. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, doit lutter contre le mal. Mais ce sont les violents qui s'en empare. Il y a une réaction forte lorsque Jésus entre en scène. Des hommes violents s'y opposent. Et nous l'avons vu de la part des pharisiens, une telle réaction au verset 14 de ce même chapitre, chapitre 12. Ils se concertèrent sur les moyens de faire mourir Jésus parce qu'ils n'appréciaient pas la réalité que Jésus révélait. Et dans notre texte d'aujourd'hui, il y a donc cette lutte entre le bien et le mal qui se révèle de manière encore plus forte. Le texte nous pousse à se positionner. Le bien ou le mal? Dieu ou les démons? Jésus ou les pharisiens? Nous nous trouvons ce matin de quel côté de ce débat? Si on va faire un peu différemment aujourd'hui, on va commencer à la fin Donc à partir du verset 36, Jésus nous dit ceci. Je vous le dis, au jour du jugement, les humains rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront proférées. Car c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Ce sont des versets importants ici, car dans leur contexte, ils portent surtout sur nos paroles, nos propos au sujet de Jésus. J'espère vous montrer cela un peu plus tard. C'est vrai, de manière générale, que nos paroles révèlent ce qui se trouve sur notre cœur. Verset 34, « Car c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. L'homme bon de son bon trésor tire du bon. L'homme mauvais de son mauvais trésor tire du mauvais. » Souvent, je pense, lorsqu'on essaie de justifier nos excès de paroles, de nos propos, nous sortons quelque chose de ce genre, n'est-ce pas? Oh, je m'excuse lorsque je disais cela. Je n'ai pas fait exprès, j'étais énervé, j'étais stressé. Ce n'est pas ce que je pense réellement. Je prends mal ce que j'ai dit. Mais nos paroles, dans de telles circonstances, révèlent plutôt ce qui se trouve sur le cœur. Et au lieu de nous excuser pour une perte de contrôle qui a évoqué nos propos méchants, que ce soit de vive voix ou par Facebook ou Twitter ou mail ou WhatsApp ou autre, ce serait plus honnête de chercher notre propre cœur qui est à la source de tels propos. Mais lorsque Jésus dit ici, verset 37, que c'est par tes paroles que tu seras justifié, il n'est pas en train, à ce moment-ci, d'introduire le salut par nos œuvres. Peut-être on pense ça en lisant ce verset. Vous dites plus de 50% de bonnes choses, alors c'est OK, Dieu t'accueillera. Mais vous dites plus de 50% de mauvaises choses dans votre vie, alors tu seras condamné. Non, la justification ici, c'est une démonstration de la justice. Nos paroles démontrent ce qu'il en est de notre cœur. Et surtout ici, cela à propos de Jésus. Nos paroles révèlent ce que nous pensons. Car si nous nous trouvons du mauvais côté de la lutte qu'il y a dans ce monde entre Dieu et le mal, en attribuant le mal à Jésus et en s'opposant à son règne, alors oui, verset 37, c'est par nos paroles que nous serons condamnés. Alors, l'épisode, maintenant, on reprend le début, démarre, n'est-ce pas, avec une délivrance d'un homme qui se trouve sous l'emprise du mal. Le démoniaque, verset 22, aveugle et muet. Jésus le guérit, c'est tout ce qu'on apprend. Cet homme parle et il voit. Quelle transformation pour lui! Et cela provoque une réaction de la part de la foule, n'est-ce pas? Toutes les foules, verset 23, stupéfaites, disaient, n'est-ce pas là le fils de David? La foule, si vous voulez, hésite. Ils ne sont pas certains. Ce n'est pas celui-là, le fils de David, on peut le lire de cette manière-là. Et est-ce bien lui? Car Jésus n'est pas conforme à leurs attentes du Messie. Un libérateur politique qui restaure Israël à une prospérité matérielle. Eux, ils ne cherchent pas, à ce stade, un libérateur qui se soucie pour la justice, qui va délivrer du péché. Et donc, ils se demandent, est-ce vraiment lui, le fils de David? Mais ce qui est clair, c'est que Jésus effectue, quoi qu'il en soit, des miracles. Qu'est-ce que nous allons faire avec cette réalité, avec cet homme qui était aveugle et muet, mais qui maintenant voit et parle? C'est une réalité, ce qu'il a effectué. Ben, les pharisiens, eux, ils ont une idée de ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça. Verset 24. L'ayant appris, les pharisiens dire, il ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Cela engendre une réaction de la part de Jésus pour nous avertir d'une réaction négative à son égard. Il vient d'avoir une réaction négative, et donc maintenant Jésus vient à nous enseigner par rapport à cette réaction. Il vient nous avertir. Et donc si vous suivez le plan, nous allons voir d'abord qu'il établit qu'à travers son ministère, le royaume de Dieu avance grâce à ses œuvres, à lui. Et ensuite, il va tirer des conséquences de cette vérité-là. Donc d'abord, nous allons voir que le royaume de Dieu avance grâce aux œuvres de Jésus. D'abord, parce que ce qui arrive ne peut pas être l'œuvre de Satan. Oui, verset 25, « Connaissant leurs pensées, n'est-ce pas ?» Juste une petite parole de la part de Matthieu qui révèle de nouveau la divinité de Jésus. Eux, ils discutaient, on suppose, entre eux, mais connaissant leurs pensées, avec sa perspicacité divine, il explique une vérité, je dirais, assez basique pour détruire leur argumentation assez faible. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut tenir. De même pour une ville ou pour une maison, dit-il. De nouveau, c'est un argument que des Britanniques ont besoin d'apprendre actuellement, n'est-ce pas? Tellement ils sont divisés sur la question du Brexit. Si l'union fait la force et la devise de la Belgique, c'est justement pour cela qu'on s'inquiète à chaque élection fédérale pour le futur de ce pays. De même, dit Jésus, pour Satan, verset 26, si le Satan chasse le Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume tiendra-t-il? C'est du non-sens ce que vous proposez, mes amis pharisiens. D'ailleurs, l'exorcisme existe, dit-il, dans votre tradition juive. Verset 27, donc, si ce que vous dites est vrai, que je chasse les démons par Satan, par qui chasse-t-il vos fils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Vous serez jugés par votre propre peuple. Apparemment, il y avait aussi des exorcismes de ce genre dans la tradition juive de l'époque. Bien sûr, ce n'est pas par Satan que Jésus chasse les démons. C'est débile d'y penser. Non, sa façon puissante de les chasser, rien que par un mot, il les a chassés. Cela était inconnu jusque-là. Il n'y a aucun exemple d'une telle œuvre dans l'Ancien Testament non plus. Non, c'est clair, comme il le dit au verset 28, que ce n'est pas l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons. Mais comme il dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à nous. Jusqu'à vous, il leur parle. Et cela témoigne du règne de Dieu, du royaume de Dieu, qui est parvenu dans jusqu'à eux. Ce qui arrive ne peut pas être l'œuvre du Satan, mais la preuve plutôt que le règne de Dieu arrive, parce que le roi arrive. Jésus est tellement différent de tout ce qui a précédé jusque-là. Et ça nous mène à notre deuxième point là-dessus, car Satan, l'homme fort, est lié. Justement, vu que le royaume arrive sous la main puissante de Jésus, cela fait signe que Jésus, dans cette grande lutte entre le bien et le mal, fait des avances importante. Verset 29, comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort? De nouveau, c'est assez simple ce principe, c'est l'ABC pour un voleur, je dirais. Il faut pouvoir désarmer la sécurité, que ce soit des personnes ou aujourd'hui que ce soit des systèmes d'alarme, pour pouvoir s'emparer des diamants, si on veut voler le magasin de Wissam, je vous prie de ne pas faire cela, mais il va falloir faire face d'abord au système de sécurité qu'il a en place. C'est normal. Ce n'est pas ici que Jésus encourage le vol. Bien sûr que non. Mais il se sert de cet exemple pour faire comprendre ce que lui, il fait à Satan. Si le royaume de Dieu avance, cela avance car Satan, l'homme fort, donc, est lié. Jésus peut piller la maison car il est le plus puissant que Satan. L'avancement de son royaume n'est pas donc en doute. Tel est son pouvoir. Oui, Satan continue à exercer jusqu'au retour de Christ, comme nous l'avons vu dans Apocalypse. Jusqu'au retour de Christ, Satan continue à avoir une influence. Mais sa puissance est liée parce que Jésus-Christ a lié l'homme fort. Et cela devrait fonctionner en tant qu'encouragement pour nous aujourd'hui, chers amis. Lorsqu'on reste encore confronté par plusieurs obstacles dans notre foi chrétienne, parce que de l'opposition, de la moquerie, pour ceux qui se disent chrétiens convaincus aujourd'hui, qui tiennent la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu, ben la moquerie, l'opposition, il y en a. Samuel a cité un exemple de cela. Et l'opposition peut nous décourager, n'est-ce pas? La persécution peut nous faire penser que le résultat de ce combat, cette lutte entre le bien et le mal, est en doute. On prend des coups, non seulement des coups de l'opposition externe, mais aussi, ce qui est toujours dans un sens plus difficile, de l'opposition interne. Il y a parfois des disputes, des déceptions, divisions. Nous sommes face aussi à notre propre faiblesse, nos propres erreurs. Et le doute est semé. Lorsque Federer était en train de battre Nadal, à un moment donné, il perdait le deuxième set dans la demi-finale, 6-1. Alors même s'il menait la victoire finale, à ce moment-là, j'imagine qu'il avait des doutes en ce qui concerne son pouvoir. N'est-ce pas? Est-ce qu'il allait vraiment remporter la victoire? Mais nous, même si la défaite apparente via l'opposition nous fait penser que peut-être la victoire finale est en doute, nous savons que ce n'est pas en doute, car Jésus a lié l'homme fort. Ultimement, il le fait par son œuvre à la croix. Il a la victoire sur Satan et sur ses démons, sur ses anges. Est-ce suivre Jésus, on peut se demander ce matin, est vraiment le bon choix, le bon chemin? Car il y a des raisons pourquoi que le royaume de Jésus n'avance pas autant qu'on aimerait. Peut-être vous êtes à l'école et vous dites où se trouvent les autres chrétiens. Qu'en est-il de ce royaume qui avance? Moi, je ne le vois pas. Peut-être vous êtes le seul chrétien au travail. Et vous vous demandez, mais qu'en est-il de ce royaume? Peut-être vous vous trouvez dans des situations difficiles, point de vue de santé. Et vous vous dites, mais où est la victoire que Jésus promet? Est-ce vraiment le cas que son royaume avance? Et la réponse est oui. La puissance de Jésus-Christ sur le mal nous encourage. L'homme fort est lié. Satan, il a un pouvoir, mais c'est un pouvoir limité. La victoire finale n'est pas en doute. Donc jusque-là, Jésus, il a établi donc que le royaume de Dieu avance grâce à ce que lui, il fait à ses œuvres. Et puis maintenant, il va tirer trois leçons, trois conséquences de cette réalité. D'abord, ne pas être pour Jésus, c'est être contre lui. Peut-être vous connaissez l'autre dicton de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Luc, aussi dans l'évangile de Marc, où il dit plutôt l'inverse. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ici, ce n'est pas celui-là, c'est celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Bah, lequel est vrai entre les deux? Les deux sont vrais, parce que le contexte nous dicte comment est-ce que nous devons comprendre ces propos. Dans l'autre dicton, Jésus parle à ses disciples à propos de quelqu'un d'autre qui n'est pas de leur clan. Et il dit, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ne vous inquiétez pas, il est pour nous. Mais ici, il parle à ceux qui pensent être indifférents ou contre Jésus. Et il parle d'eux-mêmes. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ce n'est pas possible d'être suisse, spirituellement parlant, c'est-à-dire neutre. Parfois, on peut être neutre. Parfois, on me dit, ça, c'est pas mon affaire. Peut-être que vous ne vous intéressez pas du tout au Tour de France, et vous en avez marre que maintenant, ça fait 2 semaines de suite qu'on en parle, et vous dites, qui va gagner le Tour de France? Ça m'est égal. Aucune idée, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes neutre. Mais, parfois, ne pas prendre position, c'est de prendre position. Vous êtes conscient de cela. On pense être neutre, mais nous ne le sommes pas. Imaginons qu'il y a une dispute au sein d'une ASBL dans laquelle vous êtes membre du CA. Et un autre membre du CA propose une action. Les autres sont contre cette action. Et celui qui propose l'action demande, tu demandes, est-ce que vous allez soutenir cette action qui est proposée? Et vous dites, bah, écoutez, moi je préfère m'abstenir. Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour. Mais le fait de ne pas être pour signifie que le contre va gagner. Ton soi-disant neutralité s'aligne pour finir contre l'action qui est proposée. Jésus a affaire à ceux qui ne croient pas en lui, qui ne sont pas neutres à son égard, qui ne sont pas persuadés de son royaume, de ce que lui, il amène son royaume, il instaure son royaume. Et il leur dit, si vous n'êtes pas pour moi, avec moi, vous êtes contre moi. Au lieu de reconnaître que le royaume vient, vous traitez Jésus, le roi, comme s'il ne l'est pas. Forcément, vous êtes donc contre lui. Au lieu de rassembler d'autres dans le royaume, lors de la récolte, vous dispersez, il dit. Dans cette lutte donc, entre le bien et le mal, vous vous situez où, mes amis? Pour ou contre Jésus? Avec ou contre Jésus? Vous savez, toute opposition n'est pas forcément une opposition agressive et évidente. Imaginons que nous sommes sur un navire de pirates. Sur un navire de pirates, il y a toutes sortes de personnalités, vous savez, des agresseurs bien armés, opposition évidente, mais dans le navire, il y a aussi du personnel qui tient la barre, il y a des cuistots qui préparent à manger pour des pirates. Certains sont sympas, sont assez pacifiques de personnalité dans leur manière de faire leur tâche, oui. Mais où se trouve-t-il? Sur quel bateau il se trouve? Sur le bateau de pirates, quand même. Il y a une opposition, même si c'est une opposition polie. Et spirituellement parlant, le fait de se retrouver au sein d'une église locale signifie de toute évidence que nous ne sommes pas contre le Christ de manière frontale, comme le sont d'autres personnes, c'est clair. Mais cela ne signifie pas que nous sommes forcément pour Jésus, avec Jésus. Car de manière polie, nous pouvons assister à un culte tout en disant dans notre cœur, non, non, je ne te rejoins pas, Jésus, par rapport à ce que tu demandes de moi dans ton royaume. Non, non, je ne suis pas prêt à te suivre, à reconnaître que toi, tu es le maître. Nous devons comprendre que notre présence le dimanche matin dans une église locale, dans un local d'une église locale, ne suffit pas en lui-même. Non. Il ne suffit pas d'être simplement enfant des parents chrétiens non plus. Il faut être avec lui et non pas contre lui. Si nous ne sommes pas encore avec lui, alors nous sommes, nous avertit Jésus, contre lui. Il faut nous aligner avec lui. Deuxième conséquence, blasphémer contre l'Esprit, attribuer le mal à Jésus, c'est se priver du pardon que lui seul peut nous accorder. Je pense que ce que nous venons de dire nous aide avec ces versets qui suivent, car il parle du blasphème contre l'Esprit qui ne sera pas pardonné. Et cela trouble, bien entendu, un bon nombre de chrétiens, cette vérité-ci. Car on peut se demander, et peut-être vous vous demandez, si vous avez commis vous-même un tel blasphème. Peut-être il y a dans votre propre parcours une grosse erreur de votre passé qui vous guette lorsque vous y pensez. Peut-être il y a un regret profond par rapport à un comportement, à un moment donné, une action prise dans votre passé. Peut-être il y a un abandon pendant un moment de la foi, un mépris pour Jésus, pour sa parole, bien que nous le connaissions depuis notre enfance. Et aujourd'hui, vous vous dites, est-ce moi qui a commis ce péché contre l'Esprit de Dieu, le blasphème contre l'Esprit? Moi, j'aimerais dire que le contexte de nouveau doit influencer notre compréhension de ce que Jésus dit ici. Et remarquons que le verset 31 commence avec « c'est pourquoi ». Ce qui signifie qu'il lit le blasphème contre l'Esprit à ce qui a précédé, c'est-à-dire une attitude envers Jésus qui le rejette, en attribuant ce que Jésus fait au diable et non pas à Dieu. Bien sûr, si on y réfléchit, une telle attitude ne peut pas être pardonnée. Ni dans ce monde, ni dans le monde à venir, dit Jésus à la fin du verset 32. Parce qu'en disant cela, nous rejetons le seul moyen par lequel nous pouvons être pardonnés. C'est-à-dire par Jésus-Christ, son œuvre à la croix pour nous. Cela est le blasphème contre l'Esprit. Car le message du pardon en Christ est un message qui trouve sa source dans l'œuvre révélatrice de l'Esprit de Dieu. Voyons à quel point le pardon, si nous venons à Jésus, est possible. Car au début du verset 31, que dit-il? Tout blasphème sera pardonné aux humains. Verset 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Ça, c'est le message réconfortant pour nous, pécheurs ici rassemblés. Il n'y a aucun péché que vous avez commis qui ne pourrait pas être pardonné définitivement. Même le blasphème. Il n'y a, dit l'apôtre Paul, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. L'assurance de notre salut nous est possible, chers amis. Même pour ceux qui ont persécuté l'Église chrétienne, cela était le cas pour l'apôtre Paul lui-même. Mais consciemment rejeter le moyen du salut, Jésus, rejeter que Jésus vient de Dieu, qu'il est le chemin vers Dieu, cela ne peut pas être pardonné. C'est de rejeter le moyen par lequel ce pardon nous parvient. Et d'en tourner le dos consciemment une fois que nous avons goûté la bonté de Dieu, alors ça c'est d'aller vers l'apostasie, de nier la bonté de ce que nous avons trouvé en Jésus-Christ. C'est pas facile, hein, ces versets, chers amis. Mais j'aimerais vous encourager, hein, parce que si vous êtes ici troublé par rapport à cette question, c'est la preuve que vous n'avez pas commis ce péché, chers amis. La personne qui l'a commise n'en est pas soucieuse, plutôt fière dans son rejet de Jésus-Christ. Bon, revenons en terminant là où nous avons commencé, avec cette troisième conséquence que nous avons déjà mentionnée. Rejeter Jésus, à travers ses paroles, révèle un attachement au mal qui conduit au destin qui en découle. Je vous le dis, verset 36, au jour du jugement, les humains rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront proférées. Car c'est par tes paroles que tu seras justifié. Et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Ce que nous disons de Jésus révèle là où nous nous situons devant lui. C'est de l'abondance du cœur, verset 34, que la bouche parle. Le bon de son bon trésor tire du bon, le mauvais de son mauvais trésor tire du mauvais. Le remède donc, pour le cœur, c'est de peser les propos de Jésus, les œuvres de Jésus. J'ai parlé encore hier à quelqu'un de culture chrétienne qui voulait reléguer Jésus à un prétendant religieux comme un autre. Que peu importe le chemin, on arrivera à Dieu. Mais il n'y a qu'un seul qui amène, qui instaure le royaume, le règne de Dieu. Jésus-Christ, réfléchissons à ses œuvres, à lui, pour bien se positionner devant lui. Et soyons réconfortés, chers amis, si nous appartenons au royaume de Dieu, et cela par l'œuvre de Jésus-Christ. Non, ne doutons pas notre allégeance à Jésus-Christ, malgré l'opposition qui existe, mais soyons encouragés que Jésus-Christ est le roi, qu'il est digne de notre confiance, qu'il a la victoire sur le mal. Prions ensemble. Merci Seigneur pour Jésus. Merci que ces paroles ici nous poussent à réfléchir sur nos propres paroles en ce qui le concerne. Nous prions, Seigneur, que nous ne soyons pas ceux qui tournent le dos à Jésus-Christ, qui endurcissent nos cœurs en ce qui concerne Jésus et son œuvre, mais que nous soyons ceux qui sont avec lui et non pas contre lui. Que nous soyons, Seigneur, persuadés que oui, son royaume avance et soit avec nous dans les difficultés, dans l'opposition que nous pouvons ressentir. Donne-nous de connaître la puissance de Christ, l'autorité de Christ, et de cheminer avec lui dans l'obéissance et dans la foi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
Nous sommes